Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 25 juin 2022. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé mercredi soir à Téhéran pour effectuer une visite officielle et s'entretenir avec les hauts responsables iraniens, dont le président Ibrahim Raisi et son homologue Hossein Amir Abdollahian, et discuter des questions bilatérale, régionale et internationale. Il s'agissait de la première visite du ministre russe des Affaires étrangères en Iran depuis l'entrée en fonction du président Ebrahim Raisi. Cette visite intervient au moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques et bien sûr au menu des discussions. Alors, le développement des relations, de la coopération économico-commerciale, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, les dossiers régionaux, entre autres la Syrie, étaient également au menu des discussions des deux parties. Selon de nombreux observateurs, cette visite ouvre un nouveau chapitre dans les relations Téhéran-Moscou. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite de M. Lavrov à Téhéran et bien entendu la perspective de la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques et politiques, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef de la diplomatie russe s'est rendu mercredi soir à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités du pays, parmi lesquelles son homologue iranien. À la veille de son voyage, les médias occidentaux ont commencé leurs spéculations sur des motifs de ce déplacement. Le média des démocrates, la CNN, croit que les Russes se tournent vers un allié de confiance, qui est la République islamique d'Iran, pour savoir comment contourner un déluge des sanctions occidentales. Sans oublier le fait que de telles visites pourront donner un coup d'accélérateur aux accords de coopération, poursuivis notamment dans le gouvernement de Raisi, entre les deux pays. Al-Arabiya Al-Jadid vient de rapporter que l'un des objectifs de la visite de Lavrov en Iran était de favoriser l'élargissement de la coopération Téhéran-Moscou dans le sens de la lutte contre les sanctions américaines. Le média arabe, basé à Londres, déclare que les responsables des deux pays avaient récemment eu de nombreuses rencontres publiques et à huis clos. En référence à des sources d'information iraniennes, Al-Arabi Al-Jadid rapporte que Lavrov rencontrerait le président Ibrahim Raisi, Amir Abdollahian et d'autres responsables iraniens. Les sources, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont souligné que lors de sa visite à Téhéran, Lavrov discuterait de la coopération réciproque dans les affaires régionales et internationales, y compris les évolutions concernant le dossier nucléaire iranien, de même que la situation prévalant en Syrie. La visite de Lavrov à Téhéran est en effet sa première visite en Iran depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Raisi. La dernière visite de Lavrov remonte à plus d'un an, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Certes, cette dernière visite se fait dans un moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques, relevant des développements régionaux et internationaux, en particulier la guerre en Ukraine. L'incapacité et la faiblesse de Joe Biden a décidé d'aller au-delà de la politique ratée de la campagne de pression maximale contre l'Iran ont également abouti à une longue pause dans les négociations sur la levée des sanctions. Par conséquent, on peut dire que les sanctions occidentales contre l'Iran et la Russie ont ouvert un nouveau chapitre dans la coopération des deux pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette édition du débat. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Vaucluse avec Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue. Monsieur Cornu, bonjour, merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à Monsieur Luc Michel.
Monsieur Cornu, alors, comme vous le savez, le chef de la diplomatie russe s'est rendu pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Raisi à Téhéran mercredi soir. Il a eu des entretiens avec les hauts responsables iraniens, bien sûr des affaires régionales et internationales, entre autres la situation en Syrie, la crise en Ukraine, mais aussi la coopération économique bilatérale était au menu des discussions des deux parties. Alors, au moment où le monde est confronté, en effet, à de nombreuses crises, où les deux pays notamment sont soumis à des sanctions occidentales, en l'occurrence américaines, quel premier regard portez-vous sur l'importance de cette visite, la visite de M. Lavrov à Téhéran?
C'est une visite très importante et très positive, puisqu'il apparaît que la plupart des grands enjeux seront évoqués. La coopération régionale, l'Iran et la Russie partagent des côtes de la mer Caspienne, qui est un centre de production de pétrole et de gaz depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, et aussi les enjeux régionaux sur la Syrie pour trouver une issue favorable à tous les combats, à tous les envahissements de parties de la Syrie par la Turquie, sous le prétexte de protéger sa frontière contre des infiltrations, contre la présence organisée mais trop longue et mal gérée d'anciens mercenaires combattants qui ont été regroupés dans cette région, dans la province d'Idlib, suite à des accords locaux chaque fois. Arrangé par la Russie avec l'accord de la Syrie, et aussi comme deux pays lourdement frappés par des sanctions plus ou moins légitimes et souvent même illégales, ces pays doivent réagir pour trouver des solutions positives pour contourner ces sanctions et surtout pour montrer qu'elles sont vaines, qu'elles sont non seulement injustes, mais qu'elles affaiblissent en fait l'Europe parce qu'elles renchérissent les achats de gaz et de pétrole pour toute l'Europe. Et bientôt, nous allons entrer dans l'automne et ensuite la saison, donc où il y aura beaucoup de consommation. Donc il est urgent de trouver des solutions positives pour montrer que ces sanctions, non seulement sont inefficaces, mais elles sont nocives pour toutes les parties. Et donc, il faut trouver des voies pour relancer la diplomatie plutôt que jouer avec les bâtons que sont les sanctions.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe et à Monsieur Cornu. L'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie, elle est fondamentale parce qu'elle est multidimensionnelle. Ce sont deux partenaires qui se font confiance. Il y a le volet militaire qui fait que rapidement, l'OCE, l'Organisation de coopération de Shanghai, va se transformer en contre-OTAN, plus seulement l'OTCS en son sein, mais toute l'alliance. Deuxièmement, il y a le partenariat géo-économique qui est encore renforcé par la lutte contre les sanctions. Et on voit que, fort de l'expérience de l'Iran et du Venezuela, la Russie a tendance à fédérer les États sous sanctions, comme on l'a vu récemment avec la visite de Maduro en Iran. Et enfin, il y a évidemment dans le domaine de la guerre du gaz et des hydrocarbures, il y a une alliance fondamentale. Les Américains disent que Téhéran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans cette guerre. Et effectivement, si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie comme fournisseur des Européens, il aurait diminué l'emprise de ceux-ci sur le marché gazier pétrolier européen. Mais l'Iran a refusé de le faire et a laissé ce marché aux mains de la Russie en échange d'alliances stratégiques fournies par Moscou. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cela. Lorsque j'avais annoncé cette alliance en 2015, il y avait beaucoup de sceptiques. On m'avait opposé les divergences idéologiques qui existaient entre Téhéran et Moscou. Vous savez qu'actuellement, il y a deux visions de la géopolitique. Il y a la vision géopolitique occidentale, y est-elle notamment de l'administration Biden, qui fait prédominer l'idéologie, les positions idéologiques de la géopolitique. Par exemple, Biden divise le monde en démocratie libérale et en autocratie illibérale. Dans cette fausse analyse, des gens comme Orban ou comme Donald Trump, ils se retrouvent aux côtés de Xi Jinping, aux côtés de Vladimir Poutine ou aux côtés de l'Iran. C'est une fausse vision, évidemment. À Pékin, à Moscou et à Téhéran, on pratique une géopolitique classique. C'est-à-dire qu'on oppose de vieux empires continentaux, l'Iran, qui est l'héritière de la Perse qui existe depuis 25 siècles, la Russie, qui est la troisième Rome, l'héritière de Rome, qui existe depuis 27 siècles, et la Chine, qui existe aussi depuis 27 siècles, on l'oppose à des jeunes puissances talacrocratiques, jadis la Grande-Bretagne, aujourd'hui les États-Unis, sans grande histoire. Et quand vous regardez l'affrontement stratégique entre l'axe de l'Eurasie et le bloc américain occidental, voyez que le bloc américain occidental, il est structuré sur des puissances maritimes, le Japon, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Tandis que l'Eurasie est structurée sur de vieilles puissances continentales et l'Afrique à laquelle l'Organisation de coopération de Shanghai tend la main, c'est également l'existence de vieux empires. Qu'on se souvienne du Mali qui, aux alentours de l'an 1000, était l'État le plus avancé que les États musulmans et que les États européens. Et le Mali, justement, était à cette époque une puissance qui était détruite par le colonialisme. C'est cela qu'il faut retenir. Donc, Téhéran et Moscou, main dans la main, ils sont en train d'imposer une nouvelle vision de la géopolitique mondiale.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, M. Michel. Monsieur Cornu, alors, M. Michel l'a rappelé, il s'agit donc entre Téhéran et Moscou d'une coopération multidimensionnelle, d'un partenariat stratégique. Alors, dans cette logique de confrontation entre ces deux visions de géopolitique dont parlait tout à l'heure M. Michel, comment cette visite de M. Lavrov est perçue dans les milieux politiques et médiatiques occidentaux, dans le contexte des évolutions actuelles de la région, voire du monde, notamment sur fond de crise en Ukraine?
Les Européens ont voulu essayer de réduire leurs achats de gaz, de pétrole et de gaz aussi, de la Russie, puisque ce gaz alimente les caisses financières de la Russie, donc la guerre. Et les Européens veulent freiner, arrêter, certains même arrêter cette guerre, mais les restrictions font monter les prix. Donc on voit bien que ce n'est pas une solution. Et il faut rappeler ici que pour les réserves mondiales de gaz, la Russie est numéro 1 avec 21% des réserves. L'Iran est numéro 2 avec 17% des réserves et sans doute le gaz le moins cher à produire du monde et encore peu exploité à cause des sanctions américaines illégales qui sont faites à la demande en fait de l'État d'Israël qui veut tout le temps agiter des menaces pour appeler à l'aide les grandes puissances et puis déformer la réalité, faire oublier sa propre occupation des territoires palestiniens. Et le troisième pays de réserve est le petit Qatar qui l'exploite depuis longtemps sous forme de gaz liquéfié qui est exporté vers l'Europe et vers aussi de plus en plus vers l'Asie. Donc ces trois pays font plus de 50% des réserves mondiales. Et donc pour ce marché du gaz, il est essentiel qu'au moins la Russie et l'Iran s'entendent et qu'ils tentent de se rapprocher des positions du Qatar, qui est très sollicité actuellement pour vendre un peu plus de gaz liquéfié, mais les contrats sont déjà pris, sont à long terme, on doit augmenter la production très rapidement. Donc en fait, l'Iran, ici, avec toutes ses réserves encore peu exploitées, son gaz pas cher, est une opportunité intéressante que sans doute la Russie va vouloir contribuer de développer. Comme vous savez, les sanctions ont fait partir la société Total qui avait signé un grand contrat. La situation en Ukraine fait que l'autre société française, Engie et Total, se sont rapprochés du Qatar. Donc il y a des mouvements profonds. Et ce qu'il est important, c'est qu'en fait, au lieu que ça soit passif, il faut que la Russie et l'Iran reprennent l'initiative dans ce marché mondial du gaz. Et je pense que ce sera un des sujets à discuter. Bien sûr, c'est du moyen terme, c'est du long terme, mais c'est essentiel comme signal pour démontrer aux Européens, aux Américains, que toutes ces sanctions sont inefficaces, ont des effets très négatifs, notamment aussi pour la politique climatique mondiale, puisque utiliser du gaz liquéfié, ça fait beaucoup plus d'effets d'émissions de CO2 et de coûts aussi que l'utilisation du gaz naturel transporté par gazoduc.
Merci encore, Monsieur Cornu, restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, dans quelle mesure ce nouveau chapitre dans les relations entre Téhéran et Moscou pourrait non seulement contribuer à contrer les sanctions illégales, injustes et unilatérales des pays occidentaux, mais aussi, comme disait Monsieur Cornu, à permettre à la Russie et à l'Iran de reprendre l'initiative sur le marché, notamment mondial, du gaz et de l'énergie?
Les sanctions, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Les mécanismes d'évitement, mais c'est un phénomène marginal. La véritable chose qui est au cœur de la crise ukrainienne, c'est la guerre des hydrocarbures. Mais contrairement à ce que racontent les Américains et les Occidentaux, la guerre des hydrocarbures, qui comprend deux volets, la guerre du gaz et la guerre du pétrole, elle n'a pas commencé il y a 100 jours avec la crise ukrainienne. Elle a commencé en septembre 2015, lorsque les Américains, avec la production des hydrocarbures de schiste, sont devenus les dominants du marché du gaz et du pétrole. Depuis, la Russie, avec l'aide de l'Iran, elle contribue à combattre cela. Le principal volet, c'est la guerre du gaz. En juillet 2019, la Russie a organisé l'Union des États producteurs de gaz. Le premier sommet a été organisé en Guinée équatoriale, à Malabo, qui est un État pétrogazier modèle et dont la régie d'État a pour actionnaire Gazprom. Là-bas, il y avait les Iraniens, les Vénézuéliens, les Algériens, les Sénégalais et également d'autres puissances. Ces gens se sont organisés. Quel est le but de ce qu'on appelle vulgairement l'OPEP du gaz? C'est de reprendre le contrôle du marché du gaz aux Américains et de déterminer le prix du mètre cube de gaz, en sachant que tous ces pays produisent un gaz de bonne qualité, tandis que le gaz de schiste américain est de mauvaise qualité. Il pénalise durablement les sols pour plusieurs siècles en matière écologique, parce que la technique d'extraction, qu'on appelle fractal, détruit le sous-sol. Et enfin, ce gaz américain, il coûte 300 fois plus cher que les autres gaz. Le deuxième volet, c'est la guerre du pétrole, c'est-à-dire que la Russie s'est rapprochée de l'Arabie saoudite et elle a amené ses alliés dans l'OPEP, notamment de nouveau la Guinée équatoriale, qui est membre de l'OPEP depuis 2 ans. Aujourd'hui, évidemment, les Saoudiens ne sont plus du côté américain. Ils ont refusé d'augmenter la production et ils tiennent du côté du bloc de l'Est. Il y a eu le second sommet à Doha, il y a quelques semaines, des États producteurs de gaz. Cette fois-là, il y avait les Émiratis et les Qataris en plus. Et à la grande surprise des Américains, ils ont basculé du côté du bloc de l'Est. Ils ont refusé d'augmenter la production et de supplier la Russie pour fournir les États-Unis et surtout les Européens. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils ont parfaitement compris que le but des Américains en contrôlant le marché du gaz, comme en contrôlant le marché du pétrole, c'était de ruiner les États classiques producteurs. Les Qataris et les Émiratis savent qu'ils ont encore une quarantaine d'années à bénéficier de la richesse de la production d'hydrocarbures et ils ne veulent pas être les dindons de la farce des calculs stratégiques des Américains. Voilà donc le rôle moteur de Téhéran et de Moscou dans cette affaire, c'est le rôle moteur dans la guerre des hydrocarbures. Et comme les Américains l'ont expliqué, je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a des études qui sont sorties aux États-Unis, ils expliquent que ce qui a permis à Moscou de contre-attaquer et pour le moment d'être victorieux dans la guerre des hydrocarbures, c'est l'alliance avec l'Iran. Si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie pour fournir les Occidentaux, c'est-à-dire de faire de l'argent immédiat, mais d'être perdant à long terme, évidemment, les choses ne seraient pas passées comme ça. Les Américains ont raison de dire que l'Iran, c'est dans le domaine de la guerre des hydrocarbures, l'épée géopolitique de Moscou.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Cornu. M. Cornu, alors, dans cette guerre des hydrocarbures, dans quelle mesure cette alliance entre l'Iran, la Russie, sans oublier bien entendu la Chine, pourra contrebalancer en quelque sorte les équations au détriment, bien entendu, des États-Unis. En d'autres termes, comment les sanctions injustes américaines pourront se retourner contre eux-mêmes, mais aussi contre les pays européens qui, malheureusement, se sont alignés sur la politique hostile des États-Unis envers la République islamique d'Iran, mais aussi la Russie.
Oui, M. Luc Michel a tout à fait raison de rappeler l'émergence de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis qui ont des conséquences environnementales désastreuses sur place et dans le reste du monde. Moi, je voudrais rappeler que cette guerre des hydrocarbures, elle date même de plus, beaucoup plus longtemps. Par exemple, en Iran, la Russie tsariste et l'Angleterre se sont partagées en 1907 des zones d'influence en Iran. La Russie avait le pétrole de Bakou au bord de la Caspienne et était un peu moins intéressée. Par contre, les Anglais qui développaient leur flotte pour le contrôle des routes marchandes et contrôle de la défense de leur colonie indienne étaient très intéressés à avoir du pétrole non loin de l'océan Indien. Et ensuite, les Américains ont pu un peu prendre la place du Royaume-Uni dans la péninsule arabique en signant des accords avec les Saoudiens. Et du coup, il y a une certaine, depuis très longtemps, une domination de l'Angleterre et du Royaume-Uni et des États-Unis pour ce contrôle du marché des hydrocarbures. Et d'ailleurs, aussi à Londres, avant la guerre de 14, en 1912, à Londres a été créée la Turkish Petroleum Company, qui n'avait de turc que le nom, avec quelques actionnaires turcs aussi, un peu plus ou moins discrets. Mais l'intention, très tôt, de l'Angleterre était de contrôler tout le pétrole abondant du Moyen-Orient, qui était connu par de plusieurs études géologiques dans les années 1870, 80, 90, et aussi au début du siècle, au moment où les Allemands étudiaient le tracé du chemin de fer Berlin-Bagdad en Mésopotamie et aussi en Turquie. Donc c'est une vieille histoire. Il faut bien rappeler que le marché des hydrocarbures, ce sont les plus gros marchés du monde de commodités, de produits. Et c'est aussi les marchés qui rapportent le plus, qui ont le plus de fluctuations à cause des spéculations, à cause du contrôle des robinets. Ici le Venezuela, un jour l'Iran, un autre jour ou quelques décennies l'Irak. Donc c'est vraiment l'enjeu fondamental et il est donc important que s'oppose à cet impérialisme anglo-saxon des forces plus indépendantes de la Russie, de la Chine, de l'Iran et des pays arabes démocratiques ou qui peuvent le redevenir et qu'il s'allie aussi à l'Europe pour cela, pour qu'à la fin que l'Europe soit moins dépendante des États-Unis et des anglo-saxons pour son indépendance énergétique,
Merci.
Solidité énergétique.
Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt. Un plaisir, comme d'habitude.
Voilà, c'est la fin de cette édition du débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.